Voilà, donc je reviens à ce que j'étais en train de dire. Donc, la CIVA, c'est une communauté d'église en mission et qu'on appelait Communauté évangélique d'action apostolique, créée en 1971 avec le DEFAP. On a fêté les 50 ans cette année. Et c'est cette organisation qui a pris la relève de la Société des missions évangéliques de Paris et regroupe aujourd'hui 35 églises et unions d'églises dans le monde, plus précisément dans 24 pays, en Amérique latine, dans le Pacifique, en Europe, en Afrique et puis dans l'océan Indien. Nous avons l'habitude de travailler sur des thématiques, ce que nous appelons actions communes. Et une thématique qui a retenu l'attention de l'Assemblée générale de la CEVA, c'est famille au pluriel, évangile et culture dans un monde en mutation tel que vous lisez sur l'écran. Ça a été un thème de réflexion et d'action. Et cette thématique a été reconduite à l'AG de 2016 à 7 ici en France. Famille, évangile et culture dans un monde en mutation. Nous avons travaillé sur cette thématique-là et chaque église dans son contexte. Comment les Européens, quand je parle d'Europe, c'est la région Europe, hein, bien sûr, abordent la question des familles aujourd'hui. Comment est-ce qu'on comprend la notion de famille en Europe aujourd'hui, et puis du côté de l'Afrique, dans sa diversité, comment on aborde cette thématique de famille dans l'océan Indien et puis dans le Pacifique. Le Pacifique, c'est la Polynésie française et puis la Nouvelle-Calédonie. Pourquoi est-ce que nous avons choisi cette thématique-là? Nous savons aujourd'hui qu'il y a une évolution du concept et de la forme de la famille par rapport au modèle dit classique, c'est-à-dire modèle entre griffes ou entre guillemets normal ou biblique de la famille. Donc, il n'y a pas de définition qui convienne à tout le monde de nos jours pour définir ce que c'est que la famille. On va découvrir ça tout à l'heure. Et puis, l'évangile ou la parole de Dieu de manière générale est umia. Donc, l'évangile influence les gens. Nous pensons que c'est l'évangile qui doit influencer, voire modeler la société et non le contraire. Il y a bien sûr l'évolution de l'interprétation des Écritures dépendant en grande partie du contexte et des époques. Et la culture est très dynamique de nos jours. Donc la mondialisation réduit les distances au point où les cultures s'interpénètrent et s'influencent mutuellement. Alors, c'est ce constat qui a poussé la CEVA à se poser la question de savoir comment et pourquoi ces concepts ont évolué de nos jours. Il est en outre question de découvrir, d'une part, quels sont les points de continuité et de rupture que présentent ces différents concepts, c'est-à-dire famille, évangile et culture, et d'autre part, comment résistent où s'adaptent ces concepts dans un monde en pleine mutation comme celui qui est le nôtre aujourd'hui. Tout le travail que nous avons fait a permis de publier cet ouvrage-là, qui est disponible, donc Famille, Évangile et Culture dans un monde en mutation. C'est très vaste. Je voudrais juste aborder la question des familles africaines face à la modernité, parce que si on doit parler de l'évangile, parler aussi de la culture, je prends un aspect. Et quand je vais parler de la famille, je vais mettre l'accent sur l'éducation des enfants. Je parlerai plus d'enfants, plus des enfants, parce que si on doit aborder aussi la question des femmes, le rôle des femmes, ça, c'est un champ très vaste. Alors, la famille africaine, qu'est-ce que c'est? plusieurs approches possibles de décomposition de la famille. La famille se veut être l'unité sociale de base au sein de laquelle sont communiquées aux jeunes membres de la société les normes et les valeurs, les croyances et les connaissances. Communauté sociale de base fondée sur la parenté, le mariage et l'adoption. La famille peut avoir plusieurs formes. Vous avez la forme patrilinéaire. Dans ce système-là, patrilinéarité, il y a la filiation laquelle chacun relève du lignage de son père. Donc, cela signifie que la transmission par héritage, la propriété, des liens ou des noms passe par ce qu'on peut appeler le lignage masculin. Donc, ici,
S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert, la relève, vous pouvez...
Oui, en fait, comme je suis en partage d'écran, je ne vois pas tout le monde un petit instant. En principe, ça devait aller maintenant. J'avais verrouillé les micros, mais voilà. Donc, j'étais en train de parler des formes de la famille, donc la forme patrilinéaire, où ici, c'est le liage du père. Et puis, il y a la forme matrilinéaire, là, c'est qu'on relève du liage de sa mère. Et dans cette forme-là, on hérite du côté de la mère, alors que du côté dans le système patrilinéaire, on hérite que du père. Donc les femmes n'ont pas droit à l'héritage, par exemple dans ce système là. Bon. Après, il y a la forme inter-ethnique, comme ça le dit, c'est-à-dire vous allez, il y a deux individus. Deux ethnies qui s'unissent. Vous savez, généralement, on va vous dire, ah non, vous devez prendre la femme ou l'homme dans votre ethnie. Donc, on a cette forme inter-ethnique. Et puis, il y a la forme interreligieuse aussi, c'est-à-dire, il peut y avoir un chrétien ou un musulman ou un adepte de la religion pratique. La famille est aussi l'unité biologique où s'effectue la reproduction et la continuité. Et la famille africaine est en grande partie caractérisée par le fait que la majorité est rurale. Elle est souvent patriarcale et hiérarchique. Elle attache une importance substantielle à la continuité de la ligne. Alors, on peut dire que dans sa forme la plus simple, la famille est composée du mari, de la femme et des enfants. Mais dans sa forme complexe, et c'est ce qui est commun, elle est élargie, jusqu'à inclure les enfants des parents, des grands-parents, les oncles, les tantes, les frères et sœurs qui, à leur tour, peuvent avoir leurs propres enfants ou d'autres parents proches. Donc, la notion de famille africaine ne conçoit pas une nucléarisation au sens moderne du terme. La famille, c'est à la fois les grands-parents, les parents directs ou indirects, et leurs enfants, les cousins, cousines, neveux et nièces, et tous sont membres de la même famille et habitent dans la même concession ou sans clôture. Et là, Amadou Ampateba, qui est un poète, un écrivain malien, dit que dans les sociétés africaines, la famille, c'est d'abord une affaire de famille, signifiant ainsi le non-isolement des individus.
C'est comme ça que j'avais rien compris quand j'avais rencontré une cousine.
Qui?
La famille va donc au-delà des liens de sang et d'alliance. Elle se définit dans les ramifications interclaniques des unions par mariage. Elle a des caractéristiques au plan structurel, éthique, organisationnel, du point de vue de la reproduction et de l'intégration sociale. Et toute cette structuration confère à la famille africaine une véritable cohésion pour sa pérennité. Et la famille est traditionnellement considérée comme la cellule de base de la société. Donc, elle forme le socle sur lequel s'érige la société qui se fait l'obligation donc de la promouvoir, de la protéger et puis de la défendre. Donc, de défendre la famille. Alors, parlons maintenant de la fonctionnalité de la famille. Les fonctionnalités de la famille jouent un rôle prépondérant en influençant un nombre croissant de naissances. La famille africaine exerce des fonctions et des responsabilités multiples. D'abord, il y a cette fonction de socialisation qui est le plus important. Et à ce niveau, il y a, je cite un exemple du Bénin, je citerai quelques exemples du Bénin de temps en temps. Vous savez, quand l'enfant naît au niveau du Bénin, il y a une cérémonie, surtout ça se pratique chez les Goum et les Fon, au sud du Bénin, même chez les Yoruba et les Idacha qui sont au centre, il y a une cérémonie de socialisation, c'est-à-dire le 8e jour. On fait sortir l'enfant de la case et on présente l'enfant à toute la communauté. C'est une pratique qui existait et puis le christianisme a essayé de christianiser, si vous permettez cette tautologie là, cette pratique où le 8e jour tout le monde se rassemble, on présente l'enfant à la communauté, c'est le jour là qu'on donne le nom à l'enfant, qu'on révèle son nom et on présente l'enfant aux 4 points cardinaux pour demander la protection de cet enfant. Donc comme lieu de socialisation il y a à ce moment-là, donc on essaie de façonner l'enfant dès son jeune âge et l'avenir de ce dernier est en grande partie tributaire de sa vie dans la famille. Donc, et la famille va devenir le premier lieu d'accomplissement de la moralité. Qu'est-ce à dire? C'est-à-dire que la famille devient le lieu de transmission des valeurs. Et les femmes sont des actrices importantes. Parce que ce sont les femmes qui transmettent les valeurs culturelles à leurs enfants, et cela dès le bas âge, au niveau d'expression telles que le chant, donc on chante à l'enfant, et la danse, les contes. Et un autre aspect de la fonctionnalité de la famille, c'est surtout par rapport à la taille de la famille. Et on voit dans cette famille-là, africaine, que l'individu est toujours sous tutelle. Et le seul personnage qui dispose en principe de la personnalité juridique totale est le chef de famille. Donc le reste de la famille, incluant les chefs de ménage, sont en principe des subordonnés. Alors, parlons de la famille comme source de valeur morale. Dans la société traditionnelle africaine, la famille est considérée comme un héritage laissé par les ancêtres, c'est-à-dire comme une tradition. Et elle offre, donc, à cet effet, aux individus une première structuration de leurs relations. La famille permet de structurer les relations en donnant à l'enfant les premières interprétations des rôles qu'il doit jouer, donc adopter, des règles auxquelles il doit se soumettre et des conduites socialement légales qu'il doit mettre en pratique. Et là, la conscience de ses membres est formée dès le départ par la distinction de ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, la famille devient ainsi le premier lieu d'accomplissement de la moralité où les mœurs et coutumes sont observées et respectées. La famille élargie est la première communauté religieuse d'appartenance de l'individu. C'est-à-dire, quand on va parler de la communauté, donc on voit dans la famille, donc cette grande famille-là, c'est là où l'enfant s'accomplit. Et c'est à travers les parents, les grands-parents et les autres membres que l'on apprenait à connaître l'héritage religieux et spirituel. Et c'est aussi au sein de la famille élargie que l'on parvenait à la connaissance de Dieu, à la connaissance des esprits, des ancêtres, de la vie après la mort. Donc, dans cette société, dans cette société traditionnelle, comme je l'ai dit, l'enfant appartient à la communauté. Donc, il n'est pas seulement l'enfant de ses géniteurs. Alors, venons à la modernité. Je veux d'abord faire une clarification conceptuelle entre tradition et modernité. Qu'est-ce que c'est que la tradition? On définit généralement la tradition comme la manière d'agir, de penser, les habitudes, les coutumes, savoir transmis de génération en génération, mais remontant à une époque révolue ou dépassée. On y voit vraisemblablement, je dis bien vraisemblablement, son caractère statique. Et la tradition africaine est l'ensemble d'éléments présents de manière transversale à travers les différentes cultures africaines et qui témoigne du fait que l'homme africain traditionnel des cultures de l'Afrique, je parle de, au sud du Sahara, est profondément attaché à la vie. Alors que la modernité, en tant que notion traduisant une réalité complexe, voire même ambiguë, paraît s'opposer au passé, au suranné, ou s'identifier au présent ou à l'actuel. La modernité, envisagée du point de vue moral, s'opposerait à l'échelle des valeurs traditionnelles, généralement taxées d'obscurantisme. Et sur le plan développementiste, la modernité consisterait en une rupture radicale par rapport à la tradition. Pourtant, il nous faut souligner avec force que ce qui aujourd'hui est dit moderne appartiendra demain au passé, au suranné et à la tradition. Alors pourrions-nous, par conséquent, dire avec l'Ecclésiaste que ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera et qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On peut, sans risque de se tromper, donner raison à Antoine Compagnon dans son ouvrage « Les cinq paradoxes de la modernité » dans lequel il entreprend de dénoncer, entre autres, la prétention et la superstition du nouveau, pour désigner cette propension au changement qui la caractérise et la pousse très souvent au rejet de tout ce qui relève du passé pour ne considérer que l'actuel. Alors, comme partout d'ailleurs, partout dans le monde, la famille en Afrique n'est pas épargnée des contre-coups, des mutations socio-culturelles, des tensions sociopolitiques et les difficultés de tout genre influencées par la civilisation contemporaine, marquée par l'utilitarisme, l'individualisme et la cupidité, valeurs négatives et contraires à celle de l'Afrique traditionnelle. Les structures de la famille traditionnelle africaine sont en train de s'altérer au profit du processus de modernisation qui se manifeste par les tendances telles que les technologies de l'information et de la communication, ce qu'on appelle les NTIC, nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il faut aussi signaler que le prototype de famille qui était la norme dans les sociétés africaines rurales est en voie d'être graduellement modifié et remplacé à ce jour par des valeurs modernes. Alors, quels sont les effets de la mondialisation et leurs conséquences dans la famille? Je parlerai beaucoup plus de l'usage des technologies de l'information et de la communication. Définir la mondialisation relève encore d'un exercice parce qu'il n'y a pas une définition unique du phénomène de la mondialisation. Donc, il n'est pas facile de s'accorder sur une définition unique. La mondialisation peut être la meilleure et la pire des choses, mais pas pour les mêmes personnes. Parce qu'il y en a qui trouvent que c'est une bonne chose, il y en a qui trouvent que c'est une mauvaise chose. Et la mondialisation est souvent présentée comme un village planétaire qui réconcilie les peuples. Mais elle est aussi, hélas, un lieu de déstructuration et de discrimination, particulièrement des peuples et des personnes vulnérables. Depuis le début des années 90, le mot mondialisation désigne une nouvelle phase dans l'intégration planétaire des phénomènes économiques, financiers, écologiques et culturels. On parle du village planétaire. Malgré sa complexité, les parents disposent d'une marge de manœuvre leur permettant de faire face aux influences que subit la famille face à la mondialisation. Et il y a un écrivain, donc Luc Dupont, affirme que, citation, « la famille est touchée de plein fouet par le processus de mondialisation qui s'intensifie sous l'impulsion de libéralisation du commerce, la remise en cause de l'État ainsi que la démocratisation de l'espace médiatique. Tous ces éléments se conjuguent pour bouleverser et parfois confondre les repères traditionnels. Pendant que les cultures africaines s'ancrent dans l'esprit communautaire à vision anthropologique, avec recours à l'ancêtre fondateur, la mondialisation, quant à elle, vante la culture démocratique et égalitaire. » Fin de citation. Donc, en dépit de la conception traditionnelle de la famille et des conséquences que peuvent amener les effets de la mondialisation, on observe que grâce au téléphone portable et l'Internet, les gens sont occupés à voir ou à écouter ce qui se passe ailleurs dans le monde. Il s'agit de voyager, d'être mobile tout en étant sur place, comme ce que nous faisons maintenant. Donc, on est connecté ici en France et à quelques pays d'Afrique. Et cet aspect de mobilité spirituelle, c'est la recherche de la nouveauté. Et les effets de la mondialisation au sein de la famille sont dichotomiques. D'une part, et d'autre part, elle présente à la famille des effets qui semblent négatifs. Et je vais parler des effets positifs de la mondialisation. Quelques effets, bien sûr. Alors, la famille vit aujourd'hui dans un environnement ouvert, contrairement à ce qu'elle vivait traditionnellement dans cet espace clos. Les technologies de l'information lui permettent à la famille d'être plus informée sur ce qui se passe ailleurs, même d'aller voir et de s'inspirer si nécessaire. Les technologies de l'information lui permettent de nouer des amitiés, des relations et des connaissances sur des terres lointaines, tant réelles que virtuelles, ce que nous faisons maintenant, donc on est dans du virtuel. L'usage des réseaux sociaux tels que Facebook, WhatsApp, Viber, Twitter a permis à la famille d'être désenclavée pour faire partie d'une famille plus large que la famille étendue dans le contexte africain. Alors, les effets négatifs. avec les nouvelles technologies de l'information, la famille semble perdre de plus en plus son rôle de premier lieu d'éducation de base. Parce que la famille, c'est le lieu d'éducation de base. Les enfants ont tendance à s'informer des choses de la vie, non auprès des parents, mais plutôt dans les médias et les réseaux sociaux. La plupart des enfants n'ayant pas l'esprit de discernement pour comprendre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, arrivent à se créer beaucoup plus de problèmes que de solutions. Et bon nombre d'entre eux aujourd'hui sont initiés aux sciences occultes, à la magie, et certains se sont livrés aux relations homosexuelles ou lesbiennes ou à des relations sexuelles précoces. Les nouvelles technologies de l'information sont comparables à une épée à double tranchant. Elles jouent parfois un rôle très négatif dans le sens où elles tuent parfois la conversation au sein de la famille, éloignent les membres les uns des autres, alors que ces membres devraient être ensemble. Il arrive souvent de trouver une famille assise ensemble, en train de regarder la télévision dans un silence lugubre. Chacun concentré sur son téléphone, ils sont plus en communion avec l'extérieur qu'entre eux au sein de la famille et dans la maison. Ça, c'est ce qu'on remarque aujourd'hui avec la modernité. Donc, il n'y a plus de lien, il y a désormais ce que j'appellerais un intrus dans la maison. Et à ce sujet, le Dourian affirme que par la réception des SMS, les coups de fil et les éléments disruptifs de la messagerie électronique, certains moments clés de la vie familiale, comme les repas, sont susceptibles d'être entrecoupés de sollicitations extérieures qui mettent à mal l'attention portée aux échanges familiaux. Tantôt, cette activité communicationnelle en ligne est perçue comme une manière de cultiver l'autonomie de chacun, tout en le fixant à domicile. Tantôt, elle est vécue comme concurrentielle à la vie de famille et de ses rituels. Donc, voilà quelque chose qui vient concurrencer la vie en famille. Les réseaux sociaux, certes, sont un avantage pour connecter les gens au monde, mais ils constituent aussi un danger quant à la préservation des valeurs morales et des mœurs traditionnelles qui, du reste, promeuvent l'épanouissement de l'unité de la famille. Alors, il revient aux parents, en tant que garants des valeurs morales et mœurs traditionnelles, de réglementer l'usage de la nouvelle technologie qui tend à rendre distants les membres de la famille au lieu de les rapprocher. J'aborde la troisième partie ou le troisième chapitre et le dernier, les défis de la famille de nos jours. Alors, la famille africaine se trouve à la croisée des chemins aujourd'hui. Les familles font face de façon permanente à des situations particulièrement pathogènes, de sorte qu'elles connaissent des troubles dans leur processus de développement. Ainsi, on assiste à plusieurs types et formes de mariage en Afrique. Les couples se font et se défont de jour au lendemain. Les familles africaines se sont nucléarisées. Si vous prenez même la forme et l'architecture des résidences, ça a complètement changé. Chacun a peur et devient méfiant de l'autre. Chaque famille nucléaire vit dans sa cour clôturée. Les enfants n'ont plus accès à la cour de l'autre car ils ne sont plus un patrimoine commun, mais appartiennent désormais aux seuls parents, père et mère. Et ça, c'est un danger. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Chacun chez soi. Même si vous êtes chez vous, chacun dans son coin. Donc, voilà, l'enfant qui était un patrimoine commun ne l'est plus. On ne peut occulter la problématique aussi de l'héritage avec son corollaire de querelles et de guerres fratricides. Conséquence, les bases de la famille étendue se sont lésardées. les anciens rapports d'union, de solidarité et de coopération sont remplacés par des rapports d'opposition et de domination entre les membres de la famille. Alors, les changements anthropologiques et culturels que nous connaissons aujourd'hui dans les sociétés appellent à un discernement. Nous sommes face à des phénomènes ambigus. La valorisation de la personne et de son autonomie, de même que l'accroissement de la liberté de choix, sont des évolutions positives qui permettent à l'individu de déployer ses capacités dans une société. Il faut cependant veiller à ce que l'autonomie de l'individu, qui n'est pas négative en soi, ne devienne une source de souffrance, surtout lorsqu'il n'existe aucune structure sociale pour la soutenir comme la famille. Et la famille africaine aujourd'hui semble être à la croisée des chemins quant à son rôle d'éducatrice de base. Parce que la famille, c'est la cellule, c'est le lieu d'éducation de base. La famille fait face aux influences extérieures de la vie moderne qui représentent de multiples défis à relever. La réduction, voire la disparition de la culture de l'amour est un fléau qui mine la famille de nos jours. L'amour est et doit demeurer le socle de l'épanouissement de la famille. L'amour n'est pas en effet une idée, mais une expérience, et ça se vit au sein de la famille. Il est une ouverture, un élan dynamique qui pousse la vie vers l'avenir. Il ne s'agit pas ici d'une complaisance. On doit attester avec fermeté que l'amour n'est pas une aventure facile, mais qui nous permet de sortir de notre égocentrisme. Et c'est ça qu'on apprend à l'enfant. Et le bas âge. Donc, l'égocentrisme est combattu. Et la famille doit également être un lieu de dialogue et d'apprentissage de la gestion des conflits. Parce que dans la famille, on apprend déjà à gérer les conflits entre les enfants. La famille est et doit demeurer le cadre dans lequel les valeurs spirituelles, éthiques sont cultivées. Vous savez, la diffusion de la pornographie par les nouvelles technologies de l'information, les violences qui surgissent au sein même de la famille, ou les abus dont sont victimes les enfants sont entre autres les défis auxquels la famille est appelée à faire face. La tâche essentielle dont se reconnaissent la plupart des parents est d'accompagner leurs enfants à l'âge adulte, c'est-à-dire leur inculquer une capacité d'autonomie, d'en faire des êtres libres et responsables d'eux-mêmes, déterminant eux-mêmes les objectifs de vie qui se seront librement fixés. La famille traditionnelle africaine constituait un cadre parfaitement adapté au développement de ses membres et de l'enfant surtout. En effet, l'enfant africain était dès sa naissance inséré dans un réseau relationnel qui débordait largement le cadre de la famille. Le développement de l'économie monétaire a eu un impact sérieux sur le devenir des familles. Un aspect que je souligne rapidement, parce que j'avais dit que je ne vais pas m'appesantir sur la femme, sur les enfants. Vous savez, aujourd'hui, il y a des femmes qui travaillent et qui sont obligées de confier la garde et l'éducation de leurs enfants à ce qu'on appelle au Bénin la domestique. Le terme approprié, c'est Viro-Mégon, donc la domestique. Donc l'enfant vit aujourd'hui une carence affective, la solitude, le rejet, l'abandon, l'aliénation et la crise d'identité. Ici en Europe, on a des structures comme la crèche ou comme l'assistant maternel et tout ça. Mais en Afrique, quand la femme travaille, il faut trouver des domestiques avec tout ce que cela comporte comme conséquence. Et du coup, l'éducation des enfants en partie. Au repas, chaque membre de la famille a son plat et son couvert. Ça aussi, on voyait dans la société traditionnelle, les enfants mangent ensemble. Voilà. Du point de vue de l'intégration sociale, plusieurs enfants de nos jours ne sont pas initiés aux rites sociétaux. Ils ignorent même tous des fondamentaux de leur culture. Par exemple, la langue de communication à la maison est de plus en plus le français pour les francophones, l'anglais pour les anglophones. Pourtant, la langue est le véhicule de la culture. C'est beaucoup plus dans les technologies de l'information et de la communication qui sont les éléments culturels de leur temps que les enfants excellent. Il va sans dire que les adultes de demain seront des acculturés linguistiques et des analphabètes de leur propre langue maternelle. Alors, il faut redécouvrir les contes, les épopées, les panégyriques et autres valeurs de la tradition qui sont en voie de disparition. Personnellement, moi, je suis un villageois, j'ai vécu au village, et il faut voir au clair de lune où on nous rassemblait pour raconter des histoires. Donc, les contes, les épopées, les panégyriques de nos familles qu'il faut étudier et savoir. L'éducation au travail et au travail bien fait était encouragée et le vol un interdit. Je me rappelle encore dans mon village, les maisons n'avaient pas de porte. On ne mettait pas de porte, on mettait juste une natte où les gens peuvent entrer, il n'y avait pas de vol. De nos jours, on assiste à des vols à main armée. L'inconscience professionnelle bat impunément son plein dans une atmosphère corrompue de gabégie, de malversation et d'hégémonie laborieusement orchestrée, au point que le plus fort et le plus fortuné règnent à mettre dans un luxe insolent à côté des couches déshéritées vivant dans une misère avilissante. Et sur le plan de l'éthique vestimentaire, l'habillement de plusieurs enfants laisse à désirer, et ce, devant le regard impuissant des parents. Un adulte ou quelqu'un ne peut pas dire à l'enfant non, ce n'est pas bon. Comme je l'ai dit, il n'est plus le bien commun. Donc, à observer de près notre société, on peut sans risque de se tromper affirmer que nos familles souffrent d'un malaise, voire de déséquilibre. Tout se passe comme si elles sont en perte de repères. Et ce phénomène de la société en crise a sa racine dans le cœur de l'homme. C'est de là que naissent au sein de la société des discordes si nombreuses et si profondes. On assiste au déni de Dieu qui entraîne le déni de l'homme et de la famille. Les couples confrontés aux nombreuses difficultés préfèrent le mariage à l'essai, le concubinage, les unions viennent en reste, les unions libres, les unions extra-conjugales et la cascade de divorces faciles. Nous avons par conséquent des réalités de personnes séparées, divorcées, non mariées ou divorcées mariées, créant ainsi des familles monoparentales, composées ou même recomposées. La responsabilité de l'éducation engage le seul parent restant. Conséquence, les enfants sont inévitablement affectés d'une manière ou d'une autre. Alors, quel accompagnement? J'aborde ici quelques pistes d'accompagnement. La famille africaine vit aujourd'hui dans un monde en mutation, donc une transformation. Et cette transformation peut aller dans le sens de la modernité, une modernité entendue comme progrès, développement, amélioration des conditions de vie des membres et tout cela pour l'épanouissement de chacun, même sur le plan de leur développement moral. Mais pour parvenir à un tel développement, il y a un prix à payer, celui de la désillusion. Il s'agit de dépasser ou de combattre le spectre de la culpabilisation qui voit le visage pour l'avenir. Il est donc parfaitement illusoire, voire inutile de passer tout le temps à rejeter le tort de son malheur sur la modernité. Il y a un travail à faire au niveau de l'éducation pour faire redécouvrir aux enfants les valeurs morales et éthiques. Donc, la solidarité, la responsabilité et le travail. J'insiste beaucoup là-dessus. La famille occupe une place incontournable dans le plan de Dieu. C'est le lieu où l'on est appelé à s'épanouir physiquement, spirituellement et intellectuellement. C'est au sein de la famille que l'on apprend à connaître l'amour et la fidélité de Dieu. C'est dans la famille que les enfants apprennent les premières leçons de la vie et la sagesse pratique à laquelle sont liées les vertus. La famille est donc le lieu qui touche le développement de tout l'être. C'est au sein de la famille que l'on est appelé à émettre la chaleur humaine, indispensable à l'équilibre affectif. Au sein de la famille, on doit ressentir ce lien chaleureux qui unit tous ses membres. Le comportement et l'attitude de l'enfant en société reflètent de manière générale l'éducation qu'il a reçue. La famille constitue la racine, le chemin, même la voie du monde et de l'Église par l'éducation qu'elle donne à la personne. En dépit des différentes occupations que peuvent avoir l'homme et la femme dans la société, l'unité, l'amour et la chaleur humaine au sein de la famille sont à préserver. Dans un tel contexte et dans une perspective chrétienne, cela fait appel à l'intervention du Saint-Esprit dont le fruit comprend la joie, l'amour, la paix, la tempérance, comme nous lisons dans Galates 5, verset 22. Cela est nécessaire pour l'harmonie dans la famille et dans la société. Alors, que conclure? Dans un monde en pleine mutation où la famille, cellule de base de la société en crise, c'est toute la société qui subit les affres de la crise. Étant à la croisée des chemins avec toutes les implications y afférentes, la famille africaine traditionnelle a besoin d'un dynamisme interne pour vivre la modernité sans compromission. Mamadou Ouédraogo pense que l'Afrique doit inventer elle-même les chemins de sa propre modernité par le truchement d'une étude approfondie de sa culture et de son histoire. Et pour soutenir notre thèse, c'est lui qui dit, nous nous appuyons sur deux raisons principales. La première relève l'erreur que commettent les dirigeants du continent africain en adoptant la copie conforme des modèles que lui impose l'Occident pour réaliser son rêve de parvenir à la modernité, tandis que la deuxième veut attirer leur attention sur les dangers et les dérives que comporte la société moderne. Alors je dis, pour terminer, que loin d'opposer les sociétés traditionnelles et modernes, il faudrait concilier les valeurs des sociétés traditionnelles modernes pour une vie familiale plus équilibrée. Il nous faut comprendre les racines pour en indiquer le chemin. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je remets la parole à Philippe.